afin que seul le Saint-Esprit nous guide, nous éclaire et nous convainc des décisions que nous devons prendre pour la gloire de l'Éternel Dieu, notre Papa. Prions avec le pasteur José des États-Unis.
Prions, Seigneur. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne toujours. Toi, le grand roi, le Dieu de l'univers qui a créé les cieux et la terre et qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Père céleste, tu as été avec chacun de nous dans son culte, dans son assemblée pour te louer avec des frères et des sœurs là-bas. Voilà que maintenant, l'heure de la méditation est venue. Tu nous appelles encore pour t'écouter. Seigneur, combien tu veux nous nourrir de ta parole. Nous sommes dans la reconnaissance, Seigneur. Même si nous ne sommes pas dignes de tout cela, Seigneur, tu nous aimes toujours. Tu vas nous parler. Nous avons besoin de ton esprit. Surtout ton fils qui nous dirige, il a besoin de ton esprit pour qu'il nous oriente selon ta volonté. Que sa personne s'efface, mais que le Saint-Esprit domine sur lui. Afin que nous tous, nous puissions partager ta parole avec joie et reconnaissance. Nous ne sommes pas bons, Seigneur. C'est pour cette raison que chaque fois, nous venons pour montrer nos limites. Pardonne-nous et remplis-nous de ton esprit. Dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort sur la croix pour nous, nous te prions. Amen.
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 Merci beaucoup, Pasteur José des États-Unis, pour la prière. Nous demandons à notre sœur Ruth de bien vouloir nous lire le passage du jour qui est dans Psaume. Psaume chapitre 35, versets 15 à 28. Psaume 35, 15 à 28, ce passage vient avec une question, la question 5, y a-t-il une promesse à laquelle obéir? Notre sœur Ruth, pourrez-vous nous lire ce passage?
Oui, pasteur. Ok. Psaume 35, versets 15 à 28. Je lis dans la version Louis II. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et ils disent « Ha ha, nos yeux regardent. » Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Ruth, de cette lecture. Que Dieu, l'Éternel, désormais t'ait fortifié et te bénisse. David se trouve, bien aimé, dans ce passage, dans une situation physique inconfortable. Il est entouré de gens mal intentionnés qui le persécutent sans cause. Ces gens lui tendent toutes sortes de pièges, des menaces, des intimidations, des faux témoignages, des moqueries, etc. David, au lieu de se confier à son expérience de militaire et y bâtir sa défense, il se tourne par contre vers Dieu, qui donne le souffle de vie à tous, croyants et incroyants, bon et méchant, en qui il a toute confiance et sait que seul Dieu est capable de mieux les protéger. Pas de discussion directe avec ses soi-disant ennemis, il cherche la face et la justice du Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées. Comment est-ce que moi je me comporte devant de telles situations. Voilà, bien-aimés, le passage du jour est là. Nous l'avons médité. Le Saint-Esprit a parlé à tout un chacun de nous. Et en tant que famille des enfants de Dieu, nous voulons nous édifier mutuellement. Voir comment le Saint-Esprit a parlé à tel ou à tel autre et quelle est la part que nous devons tirer pour que nous puissions marcher, mieux marcher dans ce monde, et que nous puissions demeurer le sel et la lumière dont ce monde a besoin. Nous donnons la parole à l'Assemblée. S'il y a de nouveau, je pense que Pasteur Célé pourra m'aider pour que nous puissions les accueillir. Nous connaissons comment prendre la parole, nous avons 2 minutes. Et si l'Esprit de Dieu dépose encore quelques vérités, certaines vérités à nous, nous pourrons toujours demander la parole, elle nous sera accordée. La parole est donc à l'Assemblée. Qui voudrait briser la glace? Pasteur José des États-Unis.
Oui. Oui, merci beaucoup, frère Gaston. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends le 15e verset. Ce verset est adressé à ceux qui, je dirais, persécutent l'homme de Dieu, ceux qui veulent sa perte, sa chute. Il dit, eux, sa troupe pour rire de ma chute. Ils se liguent contre moi, des étrangers, des gens que je ne connais pas, ne cesse de me calomnier. Oui, ces gens-là, ils s'attroupent, ils se groupent pour
se moquer de du serviteur de Dieu, de sa chite. Ils veulent coûte que coûte le voir par terre. Ils les appellent les étrangers, les gens qui ne connaissent pas, cela ne cesse de le calomnier. Les calomnies sont toujours là. Et tout quand on veut la chute de quelqu'un, on doit raconter toujours des choses qu'il n'a pas faites, des mensonges. Raconter des mensonges pour noircir le dossier de l'homme de Dieu. Ils sont là. Et la question qu'on peut se poser, nous qui sommes chrétiens, est-ce qu'il nous arrive des fois de nous retrouver dans un groupe qui calomnie les autres, et surtout les autres frères, et même les gens du monde? Est-ce que nous nous trouvons, est-ce que je me trouve, il m'arrive de me trouver, et si tel est le cas, c'est le moment d'abandonner parce que ce n'est pas bien devant le Seigneur. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Ce n'est pas bien devant le Seigneur de se trouver dans une assemblée de moqueurs, une assemblée qui ne glorifie pas la présence de l'Éternel, une assemblée qui ne suit pas les directives du Saint-Esprit. C'est le moment de les quitter. Merci beaucoup. Nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci beaucoup, Papa Gaston, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis aussi au verset 15. Peut-être je peux faire le 16. Ici, c'est quoi? C'est les salmistes se retrouvent tombés, c'est-à-dire tombés dans un malheur, une situation difficile, peut-être une maladie ou un accident ou quoi, mais il est tombé dans un malheur. Et quelle est l'attitude des ennemis, qu'on appelle les étrangers ici, des ennemis? Ils s'attroupent, ils sont dans la joie et ils veulent à tout prix la perte de cet homme. Bien-aimé, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais est-ce que cette situation s'est passée seulement au temps de David? Non, bien-aimé, même à notre époque ici. Moi, votre soeur, j'ai passé un temps où j'étais très, très malade là. Mais j'ai vu les gens se réjouir. Mais nous devons savoir que les ennemis, ils sont là. Quand nous aimons le Seigneur, quand nous sommes attachés au Seigneur, ça n'arrange pas tout le monde. Donc, c'est dire que ce que j'aime ici, c'est que dit que nous ne sommes pas les premiers à passer cette situation. Le verset 16 dit, avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Ils sont hypocrites. Comment hypocrites? Ils peuvent venir même s'apitoyer sur vous, dire, mais en réalité, c'est votre destruction qu'ils veulent. Donc, pour dire que, bien-aimés, continuons à regarder au Seigneur le bon berger pour que nous soyons épargnés. Et moi, j'aime l'attitude de ces frères. Ils tournent les regards pour parler à Dieu. C'est ce qu'il faut quand on passe une situation telle que David l'a vécu ici. Amen.
Amen. Merci beaucoup, maman Christine. Fixons nos regards vers les bons bergers en tout temps et en toutes circonstances. Merci beaucoup. Nous accordons la parole au pasteur Célestin, je pense.
Non, c'est une main oubliée. Je m'excuse, je l'enlève.
OK. Merci. Je vois Direct Fimes. OK. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada. Pasteur, vous avez la parole.
Oui, merci frère pour la parole. Si nous regardons quelques expressions qui traduisent pratiquement la même idée, au verset 15, au verset 21, au verset 26, peut-être aussi dans d'autres versets, il y a cette expression d'exprimer sa joie lorsque quelqu'un est dans le malheur. Dans le verset 15, on parle, David dit, « Lorsque je chancelle, ils se réjouissent. » Au verset 21, ils ouvrent contre moi la bouche pour dire « Haha », donc pour rire, au fait. Et le rire est toujours là, l'expression de joie de quelqu'un. Au verset 26, on parle de ceux qui se réjouissent de son malheur. Et c'est, on a parlé tout à l'heure dans les commentaires précédents pour les autres qui peuvent le faire ou qui peuvent adopter la même attitude à notre égard. Mais j'aimerais nous regarder, mais regarder moi, parce qu'il est question ici de quelqu'un qui chancelle, ça veut dire qui trébuche ou qui tombe, et que même si je ne le dis pas aux autres, même si je n'en parle pas avec d'autres, est-ce que j'éprouve une certaine joie, j'esquisse un certain rire lorsque je vois quelqu'un d'autre tomber? La question ici est...
Je pensais que c'était une question sur mes blagues. Si je savais, je ne vais même pas t'appeler.
Le Seigneur nous a dit quelque part dans Matthieu 12, 30, il dit que celui qui n'est pas avec lui est contre lui, et celui qui n'assemble pas avec lui disperse. Donc avant que je développe une attitude de rire ou de joie à l'endroit de celui qui tombe, la question que je devrais me poser est celle de savoir qu'est-ce que cela fait au Seigneur lorsque quelqu'un tombe, lorsque quelqu'un chancelle. Est-ce que ça le réjouit? Si ça réjouit le Seigneur, alors je devrais me réjouir. Si ça ne réjouit pas le Seigneur, je ne devrais pas me réjouir de cela, parce que si je me réjouis alors que le Seigneur, lui, est attristé, je ne suis plus avec lui. Alors, c'est ce que je vois dans ces trois versets qui reprennent la même idée, que je fasse attention de ne pas me réjouir lorsque quelqu'un tombe, parce que cela ne plaît pas du tout au Seigneur qu'un de ses enfants tombe. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Que nous fassions tous attention quand nous voyons la situation de tel ou tel autre, quand il chancelle, il tombe, parce que c'est l'Éternel qui prend soin de lui. Merci beaucoup, Pasteur. Nous nous rappelons que nous sommes dans Psaume 35, versets 15 à 28. Et nous nous rappelons aussi de vérifier lorsque dans nos maisons, il y a certaines conversations, de bien former l'étoile 6 pour éviter que cela puisse interférer dans notre communication, parce que c'est enregistré. Il y a aussi d'autres frères à partir de la radio qui ont besoin de nous suivre aussi clairement. Merci beaucoup. Au verset 17, Seigneur, comment peux-tu voir cela? Protège mon âme contre leurs sévices. Quand je suis affligé et touché, comment est-ce que je me comporte auprès de qui je pars me plaindre pour soumettre mon problème, pour soumettre mes chagrins, pour crier justice? Merci, nous accordons la parole à notre bien-aimé Grégoire. Mon frère, vous avez la parole.
Et merci, Papa Gaston. Et je voulais partager au verset 17 et 18. Là, nous voyons que, je voulais dire ceci, les embûches de l'ennemi, les attaques de l'ennemi ne doivent pas nous décourager. C'est pourquoi nous devons avoir toujours nos regards tournés vers le Seigneur. Nous devons continuer à les louer, parce que nous ne devons pas céder devant la menace de l'ennemi. Parce que le Seigneur dit que le Seigneur est au centre de tout, est au contrôle de tout. C'est comme devoir avoir tous nos regards tournés vers le Seigneur. continuer à les louer malgré les attaques et les ambushes de l'ennemi. Merci. Merci.
Merci beaucoup, bien-aimé. Devant les attaques et les ambushes de l'ennemi, continuons à faire confiance à l'Éternel. Soyons patients et ayons confiance à l'Éternel, Dieu des armées. Nous accordons la parole. Pasteur Célé, pourrez-vous m'aider? Notre bien-aimé dont le numéro se termine par 776.
Ah, merci, homme de Dieu. Soyez béni. Que le Seigneur vous comble. Je suis la sœur Régine du Canada.
Merci, ma sœur.
Bien, mon intervention vous laisse appesantir. Je ne sais pas si ce sera peut-être la bonne manière de faire. Verset 22
à 23. Oui, ça va.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur par rapport à ce verset. Et c'est ça qui m'a le plus vraiment frappé par rapport à l'attitude, n'est-ce pas, qu'un enfant de Dieu devait pouvoir avoir face à l'adversité, face aux défis que nous pouvons avoir chaque jour. J'ai aimé les paroles de l'homme de Dieu tout à l'heure qui a dit qu'il n'y a pas de discussion avec ses ennemis. Il faut plutôt aller directement traiter avec son Dieu, avec son maître, avec son créateur. Donc, quand bien même ça arrive, n'est-ce pas, les problèmes de l'extérieur, les moqueries, tous ces défis, quand une personne chancelle, il faut plutôt, n'est-ce pas, revenir vers le Seigneur. Et c'est devant lui qu'il faut se plaindre, parce que c'est lui seul qui est à même de pouvoir rendre justice. Et quand il le fait tellement bien, de la plus belle des manières. Et donc, je voulais dire ici vraiment que cette attitude, c'est une attitude que normalement chaque enfant de Dieu devait pouvoir adopter, n'est-ce pas? Aller plutôt traiter dans la chambre haute, j'allais dire. C'est-à-dire traiter avec son Dieu que d'aller, n'est-ce pas, dans la chair, parler plutôt à ses ennemis, manifester son mécontentement à la suite de mes ennemis et autres. Donc, voilà ce que j'avais à cœur pour pouvoir partager pour ce qui est des versets 22 à 23 où le Seigneur il dit ici que « Éternel, tu le vois, ne reste pas dans silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Sauveur. » Donc, notre Dieu ici qui est comme notre papa, j'ai l'image, n'est-ce pas, d'un petit enfant qui a été, n'est-ce pas, qui a chancelé à l'extérieur et dont le voisin s'est moqué de lui et court directement dans la maison voir son père pour dire « Papa, voilà, on s'est moqué de moi. » Voilà, réveille-toi, ne reste pas en silence. Donc, c'est une attitude que nous devions calquer en tant qu'enfants de Dieu face, n'est-ce pas, à l'adversité, face aux défis qui nous arrivent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Régine, pour le partage. Dieu, quand nous sommes confrontés à des multiples épreuves, injustices et consorts, confions-nous à Dieu. Dieu le fait tellement très bien.
Alléluia.
Merci beaucoup. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada.
Oui, merci encore, frère, pour la parole. Lorsque nous considérons la manière que David exprime son sentiment au verset 17, on peut le trouver encore la même manière de le faire au verset 22 dont notre sœur venait de parler. Ce texte m'enseigne, c'est que David, étant un vaillant guerrier, on a vu dans la partie précédente de ce chapitre qu'il utilise un langage militaire.
Je peux te demander de hausser un peu la voix, s'il te plaît.
Merci beaucoup, oui. Pasteur José. Nous avons compris.
Oui. La manière que David exprime son sentiment, dans la première partie, on a vu qu'il utilise un langage militaire. C'est un vaillant guerrier. C'est un homme qui aurait pu se venger lui-même aussi. Mais la manière qu'il exprime ce sentiment au verset 17, il montre que il m'apprend que Dieu, la vengeance et les jugements sont ses privilèges. Ce sont des choses que lui seul doit exercer et qu'il ne m'appartient pas de pouvoir les appliquer. Je ne peux pas me venger, je ne peux pas passé par la vengeance. Je ne peux pas juger, mais je dois plutôt remettre cela à qui de droit. Et Dieu a le droit de vengeance, il a le droit de jugement. Et si, chaque fois que je me venge, chaque fois que je juge, je prive Dieu de ses prérogatives et cela n'est pas bien devant lui. Donc le verset 17, le verset 22 m'apprennent cette grande vérité. Comme Dieu le dit ailleurs, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Dans toute situation que nous traversons, ne prenons pas la place de Dieu. Merci. Nous accordons la parole au Pasteur Célestin ou à Maman Christine.
Oui, merci beaucoup pour la parole, Papa Gaston. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 19. Et après avoir, disons, demandé au Seigneur, au verset 17, moi j'aime bien cette façon. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Bien-aimé, quand on traverse une situation difficile, qu'il y a des embûches, des ennemis, et qu'il y a des paroles que l'ennemi dirige vers vous, lance. Il y a des fois où on se retrouve dans une situation pareille où on crie à Dieu. Et quand on n'a pas une relation intime avec Dieu, on ne viendra pas lui dire jusqu'à quand, papa. C'est quand on a cultivé une relation, on peut arriver à lui dire jusqu'à quand et demander, Seigneur, protège mon âme contre les embûches. Là, c'est 17. Ma vie contre les lionceaux. Ils sont là, ils rôdent. Et le verset 18, il promet à Dieu, il dit, je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Et au verset 19 dont j'ai parlé, qu'est-ce qu'il dit? Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas. Bien-aimés, ce sont des gens de prière. Dieu ne nous demande pas, comme disait papa José du Canada tout à l'heure, que nous nous vengeons. Non. Mais nous pouvons parler à Dieu, puis dire ce que nous ressentons, Seigneur, jusqu'à quand? Donc je suis fatigué de cette situation. Et tu dis que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas. C'est-à-dire, Seigneur, ne fais pas réussir leur plan. Parce que ceux qui font à tort, ils m'accusent, ils parlent, ils se moquent de moi. Mais ceux qui disent, ce n'est pas une réalité. Ce sont des prières bien-aimées que nous pouvons adresser quand nous savons que nous sommes harcelés par l'ennemi. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas de regard. Bien-aimés, il y a des gens comme ça qui peuvent vous haïr pour rien du tout. Peut-être votre voix, votre intervention, j'aime pas quand ils parlent, j'aime pas ceci. Ils sont là, nous vivons de même chose. Mais voilà, si nos aînés dans la foi ont vécu la même situation. C'est pour dire que il n'y a rien de neuf que nous vivons. Mais nous devons seulement nous confier à l'Éternel, prier, avoir une bonne relation, l'harmonie avec Dieu. Et quand des choses pareilles nous arrivent, nous allons crier comme David a crié. Amen.
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 Merci beaucoup, Maman Christine. Je pense que c'est le même numéro direct FIMES. C'est Maman Christine ou bien c'est une autre personne qui veut prendre la parole?
Non, non, direct, c'est direct. La radio qui est en direct, papa.
Merci, parce qu'il y a des fois, ça c'est activé, parfois ce n'est pas activé. Merci pour Maman Christine de cette intervention. Nous devons veiller aussi à nos regards. Nos regards parfois sont remplis de haine, de vengeance. Et chaque fois que nous sommes dans une situation quelconque, ayons de l'amour envers même ceux-là qui nous persécutent. Et parfois, nos regards veulent remettre l'insulte par insulte. Quand je regarde quelqu'un qui m'a fait du mal, comment je me comporte, que disent mes regards? Les non-verbales parfois parlent plus fort que les verbales. Veillons à cela, ayons de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté pour nous tous. Merci beaucoup, Maman Christine. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada.
Merci encore, frère, pour la parole. Et un autre aspect que je vois dans le verset 17, c'est cette expression « jusqu'à quand ?». Je pense que pour chacun de nous, cette expression montre une certaine longueur dans les temps. Ça montre une certaine répétition des offenses contre la personne. Si c'est arrivé une fois, la personne peut dire, ben c'est une fois, je peux supporter, la deuxième fois peut-être. Et quand cela commence à se répéter, quand cela s'éternise, en termes de moqueries, en termes de toutes sortes de choses contre nous, c'est alors qu'on peut utiliser l'expression « jusqu'à quand ». Paul, parlant aux Colossiens, au chapitre 1, verset 11, il leur dit qu'il priait pour eux afin que Dieu les fortifie à tous égards par sa puissance glorieuse. En même temps, il ajoute que et cela, si Dieu les fortifie, c'est pour que les Colossiens soient toujours, qu'ils demeurent toujours et avec joie, persévérants et patients. Les deux adjectifs, persévérants et patients, sont particulièrement importants pour nous aujourd'hui lorsque nous faisons face à l'adversité. Et surtout, si c'est une adversité qui dure, pour que nous retournions devant le Seigneur et lui dire jusqu'à quand. Ça veut dire qu'on a tellement souffert, on en a peut-être assez. Mais prions pour que Dieu nous donne aussi, comme Paul le demandait pour les Colossiens, qu'il nous donne d'être toujours avec joie, persévérant et patient. Parce qu'il y a un temps où Dieu va exercer son jugement, Dieu va exercer la vengeance, Dieu va mettre son peuple à l'abri. D'ici là, d'ici ce jour-là, que Dieu nous donne d'être toujours et avec joie, persévérant et patient. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada, que nous soyons persévérants et patients devant les injustices que nous voyons autour de nous. Regardons autour de nous. L'iniquité semble même triompher dans tout ce qui se passe à travers le monde, surtout dans le monde politique. On nous impose parfois que certaines minorités, nous puissions respecter et ces minorités doivent diriger notre façon, notre vécu quotidien. Mais nous devons prier. Nous devons prier, oui, demander à Dieu. Ne vois-tu pas tout ce qui se passe? C'est une question qu'on ne devait pas poser parce que c'est lui qui a créé les yeux, les oreilles, la bouche, il voit tout. Mais nous pouvons dire, Seigneur, ne vois-tu pas cela? Et lorsque nous voyons nos ennemis, nos soi-disant ennemis, même ceux qu'ils forment leur assemblée pour nous détruire, nous devons sans cesse continuer à prier pour eux. Nous prions pour eux. Bien-aimés, nous avons un avantage, un grand avantage par rapport à ces méchants, à ces ennemis. Nous avons Christ à nous. Et lorsque Christ est à nous, nous avons la vie éternelle. Et comme nous avons la vie éternelle, les portes de l'enfer nous sont fermées. Nous ne pouvons plus y aller. Mais regardons ce que la parole de Dieu nous dit pour ceux-là qui n'ont pas Christ, où ils passeront l'éternité dans les tourmentes, dans les souffrances, dans le feu. Voilà pourquoi parfois, même devant l'ennemi, nos ennemis, nos soi-disant ennemis, nous devons avoir ces grains d'amour afin que par l'amour de Dieu, Dieu, quand il intervient, que ceux-là entendent sa parole et quittent cette assemblée de moqueurs, de méchants, pour faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Et cela nous interpelle beaucoup, et surtout, lorsque nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, ne cherchons pas il y a quelques bien-aimés qui l'ont partagé au verset 15. Ne cherchons pas à retourner dans les assemblées de moqueurs, dans ceux-là qui sont assis dans les ténèbres pour faire du mal aux autres. Puis, je me retrouve par accident dans une telle assemblée que je la quitte rapidement. Et que chaque fois, quand je vais parler de mon frère et de ma sœur, que je demande au Saint-Esprit de m'éclairer et que l'Éternel me juge, suis-je dans la bonne voie ou mauvaise? Quand je veux parler de ma sœur ou de mon frère et que je quitte cela pour que je ne prenne pas la place de mon Dieu et que nous fassions attention à ce que nous disons, une de nos sœurs a dit, Dieu le fait très bien. Merci beaucoup. Pasteur José des États-Unis, voulez-vous prendre la parole?
Oui, merci beaucoup. Je prends le verset 20 où il est question de un mot gentil. Ils n'ont jamais un mot gentil. Je ne sais pas ce que les autres versions ont. Oui. Le mien, c'est la mienne, c'est gentil, le mot gentil ou le mot tendre. Bien aimé, ici, moi j'ai plutôt une vérité que j'apprends dans le texte. Dans le texte, le Seigneur m'apprend que il est bien de soigner les mots, les paroles que j'adresse à ceux qui sont devant moi, même à ceux qui ne sont pas pour moi, il faut que je soigne le langage. Parce que un mot seulement peut envenimer une situation. Tout comme un mot peut aussi calmer la situation, la colère. Ainsi, nous qui sommes chrétiens, nous avons le devoir de parler comme enfants de Dieu. Même si on dit la vérité, mais on doit aussi dire cette vérité en mots choisis. Parce que si on ne dit pas en mots choisis, alors la personne qu'on veut aider ne va pas accepter tout ce qu'on aura à dire. Il va se fâcher ou réagir autrement. Alors que si nous savons soigner le mot, notre discours, ça peut arranger la situation. Donc, c'est une vérité que j'apprends de soigner les mots qui sortent de ma bouche. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur José des États-Unis, que nous puissions choisir et soigner les mots qui sortent de notre bouche, afin que nous ne puissions pas envenimer la situation. Comme le pasteur le disait dans le verset 20, « Car il ne parle pas de paix, il médite la tromperie. » Il y a des gens qui le font sciemment. Ils savent qu'ils doivent parler de la paix, mais ils trompent, ils font le mal. Parce qu'ils se disent parfois, mais pourquoi devrais-je m'arrêter? C'est là qu'ils font le mal. Dieu les a-t-il punis? Pourquoi moi dois-je m'arrêter? Et je vais continuer. Au lieu de se confier à l'Éternel pour avoir des bénédictions au-delà de celles qui sont terrestres, et ils s'accrochent aux bénédictions qui sont terrestres, et ils s'en renferment en eux-mêmes. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à chercher la face de l'Éternel pour avoir des bénédictions célestes que la terre ne peut jamais détruire. Tournons-nous vers l'Éternel, Dieu des armées. Merci, je vois la main du pasteur José du Canada. Pasteur, vous avez la parole.
Merci encore, frère. Le verset 24, le psalmiste dit devant le Seigneur, il va devant Dieu pour lui dire, « Juge-moi selon ta justice. » On a vu beaucoup de plaintes de sa part contre toutes les personnes qui lui veulent du mal ou qui se moquent de lui, mais en même temps, il est sûr de lui pour aller devant le Seigneur et lui dire, « Juge-moi, non pas parce que je m'appelle David ou je m'appelle tel ou tel, non pas, ne me juge pas ou ne prends pas ma cause favorablement parce que je suis tel ou tel. » Parce que Dieu est juste, il est juste dans ses sentences, il est sans reproche dans ses jugements. Et ailleurs, il nous est dit que Dieu ne fait jamais d'acception de personne. Donc, s'il porte un jugement, son jugement est totalement juste. Il ne va pas le faire par égard pour tel ou tel aspect de quelqu'un, mais il va le faire en fonction de sa justice. Et David dit, « Juge-moi selon ta justice. » Et dans le verset 19, il le disait plutôt, il y a des gens qui sont à tort mes ennemis, c'est-à-dire ils se sont érigés en ennemis contre moi alors qu'il n'y a pas de raison d'être mes ennemis. Alors c'est ainsi que je me dis, lorsque je dois demander que Dieu défende ma cause, comme David le dit encore ici au verset 23, il faut que je sois sûr de ce que je dis au Seigneur. Si je suis vraiment coupable, au lieu de demander que le Seigneur s'occupe des autres, mieux vaut plutôt que je lui demande de me pardonner, de me laver, me purifier, plutôt que d'aller me plaindre contre les autres. Si je suis persécuté pour avoir mal fait des choses, mieux vaut que je règle les choses qui doivent être réglées, plutôt que d'aller me plaindre devant le Seigneur. Et c'est quand je serai lavé, purifié de toute culpabilité, que je peux alors demander que Dieu s'occupe aussi des autres. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada, d'avoir soulevé cet aspect-là. Oui, souvent, quand nous sommes convaincus que nous sommes ou nous traversons une épreuve, une de nos sœurs a parlé de la chambre haute, c'est de me retirer et devant la face du Seigneur, de me purifier, d'être sûr que ce qui m'arrive, je ne l'ai pas provoqué, je ne suis pas fautif, mais cela arrive de la part de l'ennemi. Mais si l'Esprit de Dieu me convainc que j'y suis pour quelque chose, je dois chercher à réparer la situation. Mais lorsque l'Esprit de Dieu me convainc qu'il n'y a rien, alors que je puisse armer de courage, de force, de louer l'Éternel et le bénir et de confier mon problème à l'Éternel, Dieu des armées. J'avais vu la main du frère Grégoire, oui, du frère Grégoire.
Oui, merci, papa Gaston. Je voulais partager au verset 26.
Oui.
Il dit que tous ensemble, ils soient honteux, confis, c'est que c'est juste de mon malheur. Donc, nous voyons aussi que David ne veut pas se venger. Il ne demande pas de malheur pour ses ennemis, mais il demande à Dieu que les plans de ses ennemis échouent. Parce que quand leurs plans échouent, certainement, ils sont honteux et confis. Et voilà, quelqu'un qui vous persécute, qui vous cherche des problèmes, quand son plan échoue, là, c'est aussi un moment de glorifier Dieu. Il va dire non, voilà, on a vu la main de Dieu qui a protégé son fils, son serviteur. Je vais prendre le cas, par exemple, de Daniel. Daniel, comment est-ce qu'il a été accusé? Quand on lit Daniel au chapitre 6, il a été accusé, on l'a jeté dans la fosse au lion, mais quand Dieu l'a protégé, le lion ne l'a pas dévoré. On a vu même le roi, Nabucodonosor, qui a même signé un décret que dans tous les pays, qu'on ait de la crainte pour les dieux de Daniel. Parce qu'on a vu la main de Dieu la victoire, la main de Dieu qui a protégé son serviteur. Donc, devant une situation, quand on est persécuté, on ne doit pas se venger, mais on doit quand même demander la protection du Seigneur et que les plans des ennemis échouent. Vous voyez, on voit que David ne se venge pas, mais il demande que les plans des ennemis échouent. Et quand leur plan échoue, à ce moment-là, ils sont d'abord hontés et confus parce que leur plan a échoué.
Amen.
Oui, amen, si vous voulez.
Amen.
Merci.
Oui, merci bien-aimé, merci frère Grégoire. Merci de ces passages du verset 26. Oui, tous ceux-là qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Notre sœur a parlé ici, on peut haïr quelqu'un à cause de sa voix, du fait qu'elle chante que pour la gloire du Seigneur, on dit, mais qu'est-ce qu'elle pense, c'est elle qui a la belle voix ou comment? Ça peut arriver. Tous ceux-là qui servent le Seigneur, en toute vérité, seront persécutés. Maman Christine ou Pasteur Célestin, vous avez la parole.
Oui, merci Papa Gaston pour la parole. Le verset 24, je m'excuse, il y a eu un conflit avec un téléphone. Donc je disais que je suis au verset 24. Dans la version français courant, c'est un peu plus clair que dans la version seconde. Donc, je parle du verset 23, je m'excuse. Le psalmiste dit, mon Dieu, lève-toi pour me rendre justice. En même temps, il dit, Seigneur, réveille-toi pour défendre ma cause. Donc, cet homme, c'est un grand guerrier, c'est un grand combattant, mais il voudrait, devant le combat auquel il livre, que Dieu soit de son côté. Il voudrait que Dieu se réveille, même si Dieu ne dort pas, que Dieu se lève, même si Dieu n'est pas assis, en train de le regarder se débattre. Mais la leçon que je tire, c'est que la vie...
Oui, tu veux?
La vie tout entière, c'est tout simplement un combat. Et comme la vie, c'est un combat, avec qui est-ce que nous voulons être des associés? Nous pouvons être associés de forts de ce monde, les gens qui savent bien combattre, mais la vraie association, c'est celle de chercher Dieu, que Dieu soit de notre côté. Et nous verrons que ceux qui sont en face de nous, ils peuvent être très grands, très forts, très nombreux, mais quand on est du côté de Dieu, quand Dieu s'élève pour se mettre de notre côté, nous devenons plus forts et nous devenons plus gagnant. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Célestin. La vie entière, notre vie entière est un combat. Et que nous soyons avec Dieu. En suivant ces directives, c'est mieux. Et nous sommes garantis de la victoire. Même si le malheur atteint souvent les justes, l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, je vois encore la main levée. Je ne sais pas si c'est maman Christine.
Oui, papa Gaston. Merci pour la parole. Bien-aimé, dans le Seigneur, je suis au verset 26-27. Les deux versets, je peux dire, c'est en opposition. J'aime bien l'attitude de David. Il est conscient dans ce qu'il traverse. Il y a deux camps. Et c'est comme la vérité que je suis en train de comprendre. Il y a un camp de ceux qui l'harcèlent, qui veulent son malheur. Et là, quel est son souhait? Il dit qu'il soit honteux, confus, ceux qui se réjouissent à mon malheur, qu'il revête l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Et dans l'autre côté, il dit qu'il ait de l'allégresse et de la joie. ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse qu'ils disent exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Bien-aimé, ça c'est la vérité. Quand nous sommes en train de traverser une situation difficile, un malheur ou l'épreuve ou n'importe quoi que nous traversons, nous devons savoir qu'il y a deux attitudes. Il y a le côté d'ennemi qui veut à tout prix vous enfoncer le mal. Et c'est là le souhait de David, qu'il soit dans la confusion, pour dire, Seigneur, travaille, empêche leur plan de se réaliser, sinon ils vont se réjouir. Mais qu'ils soient plutôt dans la confusion, parce que moi je suis innocent dans ce qu'ils font, et toi tu combats pour moi, tu me défends, puisque tu es un Dieu juste. C'est pour cela que les bien-aimés disaient tout à l'heure, qu'on nous trouve, qu'on nous accuse de n'importe quoi, mais que nous soyons innocents. Tandis que notre côté, les bien-aimés qui aiment le Seigneur, qui savent que ces bien-aimés n'ont rien fait, et quand tu vas me délivrer, eux plutôt vont adresser des louanges auprès de toi, ils seront dans la joie que Dieu protège réellement ces bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, j'étais en train de me poser la question comme une interpellation. Moi, sœur en Christ ou frère en Christ, de quel côté je me penche? Où est-ce que je suis? Je suis du côté qui harcèle les autres frères et sœurs pour qu'ils tombent dans les pétrins, qui sont des difficultés, ou bien je suis de ce côté qui voit que non, le frère est innocent, que je le soutiens dans la prière et que Dieu soit glorifié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, maman Christine. C'était la dernière intervention parce que nous allons passer à notre présentation pour que nous puissions aussi nous édifier selon les différentes villes. Et avant cela, nous allons lire les commentaires du jour avec notre bien-aimé Normand Bini de la RDC. Et les commentaires qui nous sera lu par mon épouse Josée.
Merci. En face des comploteurs, même cœur, même comportement, versets 15, 16, 19 et 21. L'attitude et les armes de l'adversaire sont souvent les mêmes partout. Moquerie, outrage, complot, médisance, coup bas, mensonge. On est bien tenté de se demander tant de méchanceté. C'est parce que l'incroyant a la soif de posséder l'envie, l'égoïsme, le désir de se placer au-dessus des autres et de vouloir les dominer. Comment vivre au milieu de gens pareils? Seigneur, vois les comploteurs et agis à ma faveur. Versets 17, 18, 22 et 26. L'innocent a un recours sur l'Éternel des armées, qui lui fait justice et éloigne de lui ses détracteurs. Pourquoi Dieu intervient-il? Premièrement, parce que le sceptre de la méchanceté ne reste pas toujours sur les justes et qu'il n'étende pas le main vers l'iniquité. Psaume 125, verset 3. Deuxièmement, parce qu'il est amour et plein de compassion de ce que Dieu sauve et prend toujours les parties du faible, l'oppresseur, l'esclave, l'orphelin, la veuve, le pauvre et l'étranger. En dépit de l'œuvre de la méchanceté, le faible est soutenu par Dieu et par ceux qui connaissent son innocence. Verset 27. Je te louerai, même s'il se désole de l'ingratitude et des calomnies des hommes, de ceux qui ne les connaissent pas vraiment, verset 15, mais se réjouissent de ce malheur, 26 et 27, les psalmistes ne cessent pas de louer le Seigneur publiquement, verset 18 et continuellement, verset 28. Qu'en est-il de vous? Question. Quelle est votre réaction quand les gens se manquent ou se réjouissent de vos malheurs? Merci.
Merci beaucoup. C'est ça l'interpellation que nous avons, que le Saint-Esprit continue à parler à tout un chacun de nous. Je pense que compte tenu du temps, nous allons passer directement au communiqué et à la prière. Notre méditation de demain, c'est dans Genèse chapitre 29, versets 1 à 14a, avec la question 1 et la question 8. Nous allons passer la parole au pasteur Célé pour les annonces. Nous nous rappelons, nous tous bien-aimés, que nous avons le camp biblique qui se pointe devant nous. Nous devons y aller. Nous pouvons même investir en payant pour quelqu'un qui se trouve en Europe ou contribuer pour que quelqu'un qui veut s'y rendre, mais il a des moyens limités et par ma contribution, ce quelqu'un-là pourra s'y rendre. Ce sont des bénédictions. Il est parti physiquement, mais moi qui suis resté, je serai aussi béni spirituellement. Et nous avons aussi nos factures à payer, cauliflower, et bientôt nous aurons enseignemoi.com. Bien-aimés, défions, mettons notre Dieu à l'épreuve en lui donnant, en lui apportant ce qu'il nous donne. Dieu n'est pas ingrat pour ce que nous faisons ou nous ferons pour lui. Qu'il ne manque pas l'argent pour payer les factures. C'est de notre responsabilité. Merci, je donne la parole au pasteur Célé. Il va donner les annonces et maman Christine va clôturer.
Oui, merci, frère Gaston, pour la parole. Donc, les frères et sœurs qui sont à la radio, c'est une habitude qu'ils ont pris de méditer avec nous chaque soir. C'est une grâce, nous les bénissons. Aujourd'hui, ils sont à Massachusetts toujours, et puis Missouri aussi, du côté de Saint-Louis. C'est devenu une habitude, nous bénissons le Seigneur pour cela, mais aussi en Alberta. Voilà ce que nous pouvons dire pour les frères et sœurs qui sont à la radio. Merci.
Merci, pasteur. Maman Christine peut nous recommander entre les mains de notre Dieu.
Prions le Seigneur. Papa, nous te disons un grand merci pour ton amour. Merci pour la vie de notre frère David qui nous sert d'exemple, Seigneur. Nous avons vu comment il était dans les troubles, menacé par l'ennemi qui a utilisé ses agents, le diable qui a utilisé ses agents pour mettre sa vie en danger, creuser des trous, les chercher à les faire tomber, à les faire effacer de ce monde. Mais Seigneur, nous avons vu quel exemple. Il n'avait que des regards tournés vers toi pour crier vers toi, dire Seigneur, lève-toi, défends ma cause, saisis, brandis la lance, javelot. Aujourd'hui, il dit, réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi et combat mes adversaires, Seigneur. Oh Dieu, nous te présentons nos vies. Tu connais chacun de nous. Qu'est-ce qu'il traverse comme épreuve et difficulté? Et quel est le nombre d'adversaires, de persécuteurs qui veulent qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont creusés, disons dans les filets, les pièges qu'ils ont tendus? Mais aujourd'hui, tu nous apprends, nous montres l'exemple de David et crie vers toi, le bon berger, qui garde toujours tes brebis, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour la sécurité que nous avons près de toi. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui est nouveau sous les cieux. Nous avons vu ceux qui t'ont servi, qui ont voulu vivre la vie pieuse avec toi, ont été harcelés et suivis, poursuivis par l'ennemi qui voulait à tout prix de leur destruction. Mais nous savons, Seigneur, quand nous crions vers toi, tu écoutes nos prières. Malgré le fer, David disait, réveille-toi. Seigneur, la Bible nous dit, tu ne dors ni sommeil. Tu vois tout et tu connais tout. Tu sais tout ce que tout un chacun traverse. Aujourd'hui, tu viens de nous apprendre que nous devons choisir d'un côté. Nous devons pencher. Nous devons être enfants de Dieu et vivre comme enfants de Dieu. Et non se mettre au camp du diable pour harceler les autres. Travailler dans le compte de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons t'appartenir. Fais-nous grâce, Seigneur, de vivre pour toi. Fais-nous grâce de ne pas se réjouir du malheur des autres. Fais-nous grâce de ne pas être dans, de ne pas travailler pour le diable pour faire des pièges, calomnier les autres pour ne rien, vouloir leur destruction parce que nous en voulons. Nous ne voulons pas entendre leur voix. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as appris que le plan de l'ennemi échoue. Parce que c'est toi qui es le défenseur de ceux qui ont placé confiance à toi. Seigneur, fortifie-nous et donne-nous la joie, l'envie, attire-nous à passer des temps à prier. Parce que tu as laissé cette arme prier pour que nous renversions, détruisons avec toi toutes tes forteresses. Merci pour la victoire de Golgotha. Merci pour chaque sœur, frère qui s'est présenté devant toi pour avoir la force pour entendre ta parole. Et merci aussi pour ceux qui viennent comme des curieux. Mais nous savons que tu es Dieu qui attrape les curieux comme tu as attrapé Saul sur la route de Damas, Seigneur. Oh, merci notre Dieu d'être là dans la vie de tout un chacun. Seigneur, ma prière ce soir, tu as vu d'autres frères et sœurs qui ont l'habitude d'être avec nous, mais qui ne sont pas là. Mais ta grâce atteint, ta main est longue pour bénir. Atterris dans chaque maison, dans chaque vie. Seigneur, échange change notre façon de voir les choses. Que nous soyons prompts à changer notre comportement quand tu nous parles. Merci parce que si aujourd'hui nous étions dans le camp de ceux qui veulent le mal des autres, nous changeons avec ta parole. Et si nous étions dans le camp de ceux qui se réjouissent de l'innocence des autres, oh, garde-nous, Seigneur, afin que la gloire puisse te revenir à toi seul. Bénis ton serviteur, Papa Gaston, bénis sa maison. Tu connais combien il est précieux pour ses fumées. Notre Dieu, protège-les contre les lionceaux, les dragons, contre tous les pièges de l'ennemi, lui et toute sa famille. Seigneur, donne-lui encore à t'aimer davantage, attire-les encore. Et préserve sa vie, préserve la vie de toute sa famille. Protège encore que le sang de Jésus le couvre et qu'il le continue à t'écouter et diriger encore de prochaines réunions et intervenir encore dans la vie des frères et sœurs comme il le fait avec amour. Merci notre Dieu pour tout un chacun, tu connais les besoins. Merci parce que je sais chaque personne va se réveiller demain matin avec joie. Parce que Dieu s'est occupé de lui. Au nom de Jésus-Christ, que nous te prions ainsi. Amen.
Amen. Merci, Maman Christine, et merci à tous nos bien-aimés. Et merci pour cette sainte assemblée. Bonsoir à tous.
Merci, Père.